France a connu l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, d'autres pays sous influence française tels que la Tunisie ont aussi vécu la présence nazie puisqu'en novembre 1942, l'armée allemande entrait à Tunis. C'est dans ce contexte historique que se déroule le nouveau film de Karine Albou, Le Chant des Mariés, l'histoire de Nour et Myriam, 16 ans, amies depuis toujours. L'une est juive, l'autre est musulmane et elles fantasment l'une sur l'autre. Myriam, la juive, fantasme sur Nour et son futur mariage amoureux avec Khaled, tandis qu'elle est promise à Raoul, un vieux garçon d'une riche famille juive qui effacera les dettes de sa mère. Et Nour fantasme sur la vie, l'éducation et la liberté de Myriam qui va à l'école et qui peut sortir librement. Mais la réalité est beaucoup plus complexe et la présence de lois anti-juives ainsi que la propagande allemande vont mettre à mal leur relation. Karine Albou a été la réalisatrice de La Petite Jérusalem, déjà l'histoire d'une relation amoureuse entre une jeune juive et un jeune musulman, mais cette fois-ci, l'histoire se passait dans la banlieue parisienne. Voici un entretien avec Karine Albou, qui reviendra sur cette sombre période de l'histoire et qui développera les thèmes de son film, l'émancipation féminine, la sensualité et les relations entre les communautés.
Les Anglais vous bombardent, car ils veulent envahir votre pays. Ils sont les amis des Juifs. Nous sommes les amis des musulmans.
Présentez ce papier et vous serez reçu en ami.
En fait, la Tunisie était un protectorat français à l'époque. Donc, quand il y a eu la guerre, il y a eu en France le gouvernement de Vichy, les lois raciales de Vichy contre les Juifs ont été appliquées aussi dans les colonies et les protectorats, dont en Tunisie. Et par exemple, il y a eu un numerus clausus dans les écoles, les élèves juifs ont été renvoyés. Les médecins juifs ne pouvaient plus travailler dans les hôpitaux. Voilà, les gens ne pouvaient plus travailler. Donc c'est ce qui arrive à Tita, le personnage que j'incarne, qui est la mère juive. Et ce qui s'est passé en Tunisie, qui est assez intéressant, en fait, historiquement, c'est qu'il y a eu 6 mois d'occupation nazie. Ça a été suite au débarquement anglo-américain de l'Algérie en octobre 1942. Les nazis se sont repliés en Tunisie, ont occupé le pays pendant 6 mois. Et les gens, les Tunisiens, enfin les Français, les Tunisiens, les Juifs, tout le monde, quoi, ne s'attendaient pas du tout à voir les Allemands arriver. Ils s'attendaient au contraire à voir les Américains. Voilà. Donc je situe mon film pendant cette période-là. Et historiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont donc commencé à persécuter les Juifs tunisiens. Comme ils faisaient en Europe, ou en Allemagne, ils ont imposé une amende en disant voilà, les Juifs sont responsables de la guerre, donc ils doivent payer, etc. Donc ils ont imposé une lourde amende, ils ont commencé à faire des rafles et ils ont commencé à instaurer aussi un système de travail obligatoire qui est voilà, et c'est ce que je montre dans le film.
Myriam.
Ah, Myriam.
Arjalou.
Et sois gentille avec lui.
Je veux pas me marier avec lui.
Azawali ma yelzmouch itcharet, Myriam. Yakalo yoshkot. T'as même t'aimé tout le Nigeria. Rajel hidara bibath hulouk. Jibli kashadou le mejd. Oujed, Myriam. Il va nous aider à payer l'amende.
مريم انا جاده نسخه اللي ما نحبش بوك في اللول ومن بعد j'ai appris à le connaître.
Bon, on pourra parler un peu plus tard de ce personnage qui va devenir le mari de Myriam, qui est, elle, de confession juive, qui est votre fille dans le film. Effectivement, vous n'avez plus d'argent parce que vous n'avez plus de mari, vous n'avez plus le droit de travailler. Donc, eh bien, vous promettez votre fille à une riche famille, à quelqu'un qui s'appelle Raoul et qui est beaucoup plus âgé. Et qui, lui, va partir dans ces camps-là.
Le désir central du film, au départ, c'était de montrer deux jeunes filles de 16 ans, adolescentes, qui ont grandi ensemble et qui sont dans un mode un peu d'amitié fusionnelle, presque amoureux, en fait, comme on sait à l'adolescence entre filles. Et leur identité n'est pas un facteur de séparation, hein. Elles s'aiment, elles ont toujours vécu ensemble. Et au moment où elles grandissent, en fait, c'est une espèce de parabole sur la perte de l'enfance. À la fois la guerre et le fait qu'elles soient obligées de se marier les propulsent dans leur identité de juive et de musulmane. C'est-à-dire qu'elles ne se retrouvent pas dans le même camp. Myriam était effectivement obligée de se marier à un homme qu'elle n'aime pas, alors que Nour aime son cousin Khaled, qu'elle connaît très peu, mais à qui elle est promise, comme souvent à l'époque dans les familles. Et Khaled, en fait, c'est un espèce de fantasme partagé de prince charmant, parce qu'elle partage tous ses deux filles. Donc pour elle, Khaled, c'est le prince des mille et une nuits. Et Myriam, pour Myriam, cette histoire d'amour que Nour vit avec Khaled, et c'est le summum de l'amour, de voilà. Et c'est un peu l'axe central du film, c'est comment ces deux jeunes filles sont soumises à la même condition féminine, c'est-à-dire que c'est des mariages arrangés, quoi, et qui se passent plus ou moins bien.
Pourquoi tu vas à l'école et moi j'y vais pas? Pourquoi je porte le voile, tu le portes pas? Pourquoi tu sors dehors sans qu'on te fasse une remarque?
On voit bien une espèce d'antagonisme social entre ces deux jeunes filles. Il y en a une qui est éduquée, qui va à l'école, c'est Myriam. Et puis l'autre qui, elle, ne va pas à l'école, ne connaît pas l'arabe, donc ne peut pas lire le Coran. Sauf à un moment dans le film, on voit qu'elle peut le lire.
Elle le lit, elle l'apprend justement. Nour, les jeunes filles, bon, n'allaient pas, musulmanes, n'allaient pas à l'école pour plusieurs raisons. Il y avait une opposition souvent du clergé musulman. Il y avait aussi les familles traditionnalistes qui voulaient pas envoyer leurs filles à l'école parce qu'une fille c'était juste bon à se marier, c'était pas, donc ils voyaient pas l'intérêt. Et il y avait souvent que les classes bourgeoises qui envoyaient leurs filles à l'école, et là elles apprenaient à la couture. C'était pas l'école pour l'épanouissement personnel, hein, à l'époque. C'était l'école pour que la fille soit un bon parti, dans les classes bourgeoises. Et dans les classes populaires, ils n'y pensaient même pas, parce que les petites, elles faisaient le ménage, elles aidaient la maman, elles s'occupaient des frères et des sœurs, voilà. Et donc c'est beaucoup dû aussi à la... c'était beaucoup ces raisons-là. Et aussi, c'est vrai que certains colons ne voulaient pas qu'il y ait d'école musulmane pour enfants musulmans, parce que voilà. Mais il y a quand même des libéraux français qui ont essayé, qui étaient sensibles à la condition féminine des jeunes filles musulmanes, et qui ont essayé de créer une école. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que les classes bourgeoises qui y sont allées. Voilà. Et pour les juifs, c'est vrai que les juifs, les jeunes filles juives allaient à l'école parce qu'il y avait les écoles de l'Alliance israélite universelle qui se sont créées suite au protectorat. Donc souvent, les juifs, c'était pas qu'ils étaient plus... parce qu'il y avait des gens très pauvres et illettrés aussi dans la communauté juive, mais peut-être qu'il y en avait un peu moins. Voilà. Au début du film, par contre, Myriam est renvoyée de l'école. C'est voilà, parce que elle est renvoyée de l'école parce qu'elle a fait une bêtise. Mais il y avait aussi des cas où les gens étaient renvoyés de l'école parce qu'à cause du numerus clausus, quoi. Voilà. Et par contre, c'est vrai que dans le film, c'est Nour comprend pas. Elle veut, elle rêve d'aller à l'école comme sa copine juive, et elle a des frustrations par rapport à ça qui ne sont pas exprimées au début, mais qui ressortent un moment dans le film. Et comme elle voit qu'il y a une injustice. Pourquoi elle peut pas sortir dehors, parce que les filles ne sortaient pas à l'époque du tout, quoi. Eh bien, elle est très moderne en fait pour l'époque, et elle essaye de contourner les obstacles, et elle apprend toute seule à écrire, à lire, et elle apprend un peu à lire le Coran comme ça. Mais c'était très rare à l'époque qu'une fille sache lire le Coran.
Chaque fille en fait a son fantasme, hein. Myriam, c'est le fantasme d'être amoureuse et de ne pas être promise à quelqu'un qu'elle n'aime pas. Et puis chez Nour, c'est le fantasme effectivement, et bien d'être éduquée, d'être lettrée, voilà. C'est là aussi ça se répond.
En fait, chacune rêve de vivre la vie de l'autre. Chacune, Myriam rêve d'amour et pense que le summum de l'amour, c'est ce que Nour vit avec Khaled. Puis elle va se rendre compte que c'est plus compliqué que ça. Et Nour rêve de la liberté, pseudo-liberté, parce que Myriam n'est pas libre du tout, puisqu'elle est obligée d'épouser un homme qu'elle n'aime pas. Mais en tout cas, le plus de liberté que son amie juive a.
Qu'est-ce que tu fais ici?
Rien. Les tracts sur la place, pourquoi tu les as ramassés?
Par
curiosité.
Et Khaled, il t'a parlé de son travail?
Non. Il t'a rien dit?
Non.
Il est venu chez moi, il était avec des Allemands et des Français. Ils nous ont volés. Ils ont blessé ma mère.
Khaled n'a rien fait de mal. Il était avec eux, je l'ai vu. C'était pas lui. Je l'ai vu. T'as mal vu, Myriam. Et puis, je sais pas ce que t'as contre Khaled. T'es jalouse?
Non. Non, je préférais mourir plutôt que de vivre ce que tu vis.
Tu sais rien de ce que je vis, Myriam.
Ça pose des problèmes, hein. Vous parlez de l'injustice que ressent Nour. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a quand même les Allemands qui font énormément de propagande et où il est clairement dit que ce sont les Juifs qui sont du côté des Américains et s'il y a la guerre, c'est bien à cause d'eux. Et s'il y a plein de problèmes, c'est bien à cause d'eux. Et donc, grosso modo, qu'il faut s'en méfier. Et donc ça pourrait attiser une haine entre les communautés. Alors vous avez fait, j'imagine, énormément de recherches documentaires avant de vous lancer dans le film. Qu'est-ce que vous avez trouvé exactement sur le rapport entre cette communauté musulmane et cette communauté juive qui, me semble-t-il, s'entendait plutôt bien auparavant?
Alors, effectivement, les gens vivaient ensemble, s'entendaient bien. Bon, parfois, il y avait des frictions, hein, quand même. C'était pas non plus paradisiaque et idéal. C'est pour ça qu'il y a aussi tout le passage avec le Coran, parce que dans le Coran, à la fin, on voit quand même qu'il y a les deux. C'est un livre de tolérance et c'est aussi un livre qui dit des fois des choses un peu quand même dures et violentes. Et d'ailleurs, historiquement, ça s'explique. Il y a les sourates médinoises et les sourates mécoises. Enfin bon, historiquement, c'est tout à fait expliqué. Voilà. Donc, c'était pas non plus complètement paradisiaque. Les gens s'entendaient bien, mais des fois, il y avait des frictions. Par exemple, on voit qu'il y a une patronne de hammam un peu antisémite au début. Que c'est là et... C'est là, ça n'explose pas, c'est comme un truc. Et puis qu'il suffit qu'il y ait de la propagande pour que tout d'un coup, voilà. Et alors la propagande de l'époque, effectivement, la propagande nazie, comme en Allemagne en fait, comme en Europe, disait que les Juifs étaient responsables de la guerre, la juiverie internationale était la cause de tout, enfin voilà. Donc les Allemands ont repris cette propagande aussi en Tunisie. Et donc les gens étaient bombardés. Donc voilà, j'ai fait cette scène où tout le monde reçoit des tracts antisémites après un bombardement. Et ce que je montre quand même, c'est qu'il y a des gens qui sont dupes et d'autres moins. Mais globalement, la population tunisienne était attentiste parce que les Allemands promettaient à mi-mot de donner l'indépendance aux Tunisiens. Donc les nationalistes arabes étaient pratiquement tous pro-allemand, sauf Bourguiba, qui a changé en cours de route, et qui, je pense, était quand même beaucoup plus démocrate au niveau de sa sensibilité que certains autres nationalistes. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment dans le film, il y a un peu deux camps qui se forment.
Étant donné que la guerre actuelle est d'origine juive, je vous demande de comprendre l'immense danger présenté par les Juifs partout où ils se trouvent.
On l'a dit, dans la petite Jérusalem, il y avait aussi cette histoire bien des deux confessions, juive, musulmane. Là aussi, c'est présent dans le chant des mariés. Ça a quelle résonance par rapport à vous, votre histoire?
Je ne sais pas quelle résonance ça a. Hein. Ça en doit en avoir une dans mon histoire personnelle. Peut-être, bon, de par mes origines, c'est sûr, mais je suis très sensible à la condition féminine, au fait que certaines cultures ne considère pas l'épanouissement de la femme comme une priorité, on va dire. Voilà, donc je pense que c'est ça qui me sensibilise beaucoup. Et il y a beaucoup ça dans le film quand même. C'est plus qu'une histoire de juifs et d'arabes, il y a d'autres thèmes. Il y a le thème de la perte de l'enfance, la perte de l'idéal, comment on grandit d'un coup quand on est confronté à la guerre et quand on est confronté à la séparation et que se marier... Ou devenir adulte, c'est se séparer de plein de choses d'un coup, quoi. Le film, c'est un peu une parabole de ça. Et la guerre est aussi une parabole de ça, de cette explosion aussi interne qu'il y a quand une femme, une petite fille, tout à coup grandit et est obligée d'être précocement une femme. Parce qu'elles sont toutes petites, c'est des gamines, quoi. Et ça a été dur, d'ailleurs, au casting, de trouver des jeunes filles qui soit à la fois enfant et femme. notamment pour nous, j'avais beaucoup de mal et j'ai pris Olympe parce que des fois, on dirait qu'elle a 8 ans, elle a une tête comme ça, complètement naïve. Elle peut avoir, elle peut faire très femme et tout d'un coup, elle a une tête de bébé de 8 ans. Et Lizzie, pareil.
Inspection. Personne ne sort. Vous n'avez pas le droit de rentrer. Le hammam est interdit aux hommes à cette heure.
Restez là. Tiens, celle-là, elle n'a pas de voile.
Une porte au chèque.
Rattrapez-la.
Dépêchez-vous, rapport qu'elle se cache dans le bain.
C'est ma sœur, musulmane.
Qu'est-ce qui me prouve que t'es musulmane ?
Chut, voilà son voile.
La ilaha illallah Muhammad Rasulallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulallah.
C'est bon. Allez, on embarque, les otages.
Vous parlez de la condition féminine. Il se trouve que dans votre film, il y a énormément de sensualité qui ressort. Il y a des passages avec le hammam. Il y a on peut peut-être le révéler. Il y a un passage très rituel de l'épilation du pubis de Myriam qui est promise à cet homme qui la veut absolument douce. Donc vous ne faites pas l'économie de ces plans où on voit les corps, où on voit les poitrines. Et c'est sans doute une des raisons pour laquelle ce film ne sera jamais projeté peut-être en Tunisie. Ça pose un problème, la représentation de la nudité.
Il sera projeté, une projection d'équipe et tout. Mais je ne suis pas sûre qu'il va être distribué là-bas. Voilà, c'est un peu compliqué. À cause de la nudité, c'est vrai que ce n'était pas évident de tourner des scènes nues, d'épilation en Tunisie. En plus, moi, je suis une femme, donc il y a des gens qui étaient un peu choqués. Mais
dans la salle, beaucoup de femmes ont réagi, et même des hommes.
Oui, ça fait mal. Et c'est une coutume, parce que dans la culture arabe ou juive arabe, la femme doit être épilée, parce que le poil est sale, en fait, et les cheveux sont sensuels et érotiques. Mais par contre, tout ce qui est du poil, c'est sale. Donc, c'est pour ça qu'elle lui dit, il faut que tu sois propre pour ton mari. C'est presque un truc d'hygiène, quoi. Et donc, on épile entièrement le corps de la femme pour que sa peau soit douce et qu'elle soit surtout propre.
Ce qui rend cette fille d'une virginité absolue, quand même. Hein.
C'est ça, le double sens du truc, c'est que ça la renvoie à ça. On dirait une petite fille, quoi. Voilà. Donc, il y a quelque chose de très ambigu là-dedans, tout à fait.
Sachant que c'est le personnage qui est avec un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Donc, effectivement, on sent l'ambiguïté énorme dans cette scène. Oui.
Peut-être parce que, profondément, ces hommes-là n'aiment pas les femmes. Hein, les femmes libres, indépendantes, et ils les veulent. Moi, ce que je trouve profondément injuste, hein, c'est qu'il n'y a que les femmes qui doivent se faire belles pour les hommes. Et que pourquoi lui, il ne serait pas beau aussi ? Pourquoi est-ce que c'est toujours l'homme qui va demander le corps de la jeune fille est son objet, quoi. Voilà. Et il la veut comme si, comme ça, c'est lui qui décide et elle doit se plier. Même c'est sa mère qui demande. C'est ça que je voulais montrer, c'est que ce n'est pas que de la faute des hommes, c'est que les femmes aussi reproduisent un schéma archaïque. La mère pourrait dire non. De toute façon, la mère pourrait dire non, je ne marie pas ma fille contre son gré. Mais les mères reproduisent exactement ce schéma-là. Et voilà. Sure.